J'aimerais commencer juste avec une photo. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Les enfants pour voir. Je fais réviser le brevet. Non mais il y a les ados là. Qui c'est qui passe le brevet là? Allez, révise mon gars. C'est qui lui là?
Charles de Gaulle.
Bon, tu auras ton brevet, ça va. Tu es bien parti. Je ne sais pas si vous remarquez à quel événement de sa vie cette photo fait référence. On est quel jour aujourd'hui?
18 juin.
Je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que je passe par des 18 juin, mais là, alors que je préparais ce culte, j'étais traversé dans ma tête par cet appel du 18 juin. Et donc je suis allé lire ce qui est écrit, parce que bon, on sait qu'il a appelé à la résistance, bon c'est des trucs vagues, mais je ne sais pas si vous connaissez bien le discours qui a été prononcé ce jour-là. Mais on va le lire ensemble. Rassurez-vous, je ne vais pas prêcher sur le discours du général de Gaulle ce matin, mais il y a un contexte d'invasion de l'ennemi qui fait qu'il vient prononcer ce discours. Et vous allez vous-même, en écoutant ce discours, faire le parallèle avec la vie spirituelle. Et ça va nous donner l'occasion d'ouvrir sa parole, et pour que nous soyons exhortés par elle et non pas par le discours du général, bien que j'ai beaucoup de respect pour cet homme. On le lit ensemble ? Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Donc il faut savoir que juste avant, Maréchal Pétain vient de former un gouvernement et d'accepter la collaboration avec l'ennemi. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où nous en sommes aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi. Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée dans la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers, dans les moyens pour écraser un jour, tous les moyens, pardon, pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio depuis Londres. Je ne dis pas amen, mais merci au général d'avoir eu ce courage. Ce qui nous vaut d'être un pays libre aujourd'hui. Je vous propose de reprendre chaque partie de cet appel pour établir le parallèle avec l'œuvre de l'ennemi. Je ne sais pas si vous avez fait des rapports ou pas là. Vous avez vu des relations avec la vie spirituelle? On va pouvoir faire 6 remarques, 6 parallèles. La première partie du discours, elle dit ceci: les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement a formé allégeance, a fait allégeance à l'ennemi. La première remarque que je veux faire, c'est que le contexte de cet appel, c'était la reddition du maréchal Pétain, la veille, le 17 juin. Et j'aimerais dire qu'en France, la population, dans sa grande majorité, a cessé le combat contre l'ennemi de nos âmes. Soit parce qu'elle n'en est pas consciente, soit par épuisement, parce qu'il est vrai que l'ennemi auquel nous avons à faire face est puissant. On a tendance à dire, oui, il est petit par rapport à Dieu, oui, il est petit par rapport à Dieu, mais par rapport à nous, il est puissant. Dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, au chapitre 4, au verset 3 et 4, il est dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, vous savez qui c'est ? Le Dieu de ce siècle, c'est pas Macron ou Joe Biden ou... Le Dieu de ce siècle, pour l'instant, c'est le diable. C'est lui qui a la main mise sur notre terre. Une grande majorité des gens de notre terre, sans en être conscients, certains oui, en sont conscients, et même lui vous occulte, mais la plupart ne sont pas conscients qu'ils sont dirigés comme des marionnettes par des puissances ténébreuses. Dans Matthieu 24, 12, Jésus dira ceci concernant la fin des temps. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'individualisme, l'égoïsme, le manque d'amour, le manque d'empathie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans ce monde qui est basé sur l'argent, l'économie, le profit. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 5, l'apôtre Paul décrit ainsi ce qui va se passer dans les derniers jours. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Les ados aujourd'hui ne le sont pas du tout. « Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. » Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, eh bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ceux qui ont collaboré avec les Allemands, c'était des Français. Hein. Des Français. Et on peut être chrétien et collaborer avec l'ennemi. C'est possible. C'est possible. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20, il est dit aussi « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » L'ennemi a pris le dessus sur notre génération, ayant réussi à convaincre même les autorités de notre pays, les influenceurs de notre pays, que le mal, c'est le bien. Et que le bien, c'est le mal. Nous le constatons de plus en plus. Nous sommes dans ces temps où le mal est appelé bien. Et lorsque vous voulez parler du bien, on vous dit oh, « Attends, qu'est-ce que tu racontes ?» Ou même, on nous met en prison parce que, soi-disant, on appelle à la violence contre ceux qui font certaines choses. Nous sommes dans ce contexte. Ce qui est important, la première chose qui est importante, c'est de comprendre ce qui se passe. Comme nous l'avons lu, certains sont voilés et ne voient pas que la problématique, elle est spirituelle. Nous, on la met sur l'influence des lobbies, sur l'évolution de la société, enfin, on sort tout un tas de théories sur ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe est d'origine spirituelle. Et nous, nous devons le savoir. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux qui ne le savent pas. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous dites, mais ils sont dingos ces gens-là. Mais nous croyons, et la Bible parle du monde des esprits, le monde spirituel qui est là, qui est présent. Et dans ce monde spirituel, il y a l'armée de Satan et l'armée de Dieu, les démons et les anges. C'est pas des contes de fées, nous croyons que cela existe. Et si nous croyons que cela existe, ben nous savons que chacun de leur côté, ils essayent d'influencer le monde. Et aujourd'hui, hélas, celui qui a le plus d'écoute, ben c'est le diable. Quand on parle de Dieu, surtout dans notre pays de France, vous prenez le nom de Dieu, ben tout le monde qui soit se met en colère ou soit tourne le dos et... Mais ça, c'est pas en vouloir aux gens. L'origine est spirituelle. On continue. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique, etc. Et le général de Gaulle dépeint la puissance de l'armée allemande. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que l'ennemi a déployé sa force. Et notamment, il a deux atouts, je pourrais en donner d'autres, mais j'en ai retenu deux. Il a une grande patience et il a un grand pouvoir de séduction. Je suis impressionné par la patience de l'ennemi. Il n'a pas changé les mœurs en 3 jours. C'est des choses qui viennent tout doucement, tout doucement. Pour ceux qui ont vécu comme moi, un certain nombre d'années, je me rappelle de choses qui nous scandalisaient il y a 30 ou 40 ans en arrière. Aujourd'hui, j'en demande pardon à Dieu. Même moi, parfois, je me retrouve à avoir finalement accepté certaines choses. Patiemment, tout doucement, le diable nous offre. S'il le faisait brutalement, on aurait une attitude de rejet. Mais en le faisant doucement, jour après jour, un petit peu, on va un peu plus loin. Et en fait, vous savez, c'est comme l'histoire de la grenouille que vous mettez dans de l'eau, vous faites chauffer l'eau. Et comme ça chauffe progressivement, elle ne sort pas et elle meurt brûlée. Son deuxième pouvoir, c'est celui de la séduction. Je dis toujours, le diable ne se présente pas à nous avec la fourche. Les yeux qui sortent. Non. Il se présente avec un grand sourire. Je vais te faire du bien. C'est ça le diable. En fait, nous, on dit, oh, moi, je vais le voir venir. Pas de souci, quand même, je suis chrétien. Je vais le voir venir, le diable. Ouais, fais attention, mon frère, ma soeur. Il va venir, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas aller sur des terrains charnels alors que le combat est spirituel. C'est un exemple. Et qui n'est pas tombé dans le piège d'avoir une réaction charnelle alors que le problème était spirituel? Tous, nous sommes tombés dans ce piège. Je pense à la période des juges que nous trouvons dans la Bible. Vous savez, ce moment, je pense particulièrement à l'époque de Gédéon, où il y a Madian. C'est un peu comme la France et l'Allemagne. Là, c'est Israël qui a été envahi par Madian. Et il nous est dit ceci dans Juges, chapitre 6, versets 3 à 5. On a l'impression de relire le discours du général de Gaulle. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, ne laissant en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Bon, à l'époque, c'était des chameaux, c'était pas des chars. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Ça fait peur, hein? Waouh! Vous savez ce qui est dit juste avant? C'est que le peuple avait délaissé Dieu. Et il est dit clairement que l'invasion des Madianites, c'était spirituel. Parce que le diable n'a eu de cesse depuis la création du peuple d'Israël de vouloir détruire ce peuple. Regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Le diable n'a de cesse que de vouloir détruire le peuple d'Israël. Et il continue, et il continuera jusqu'au bout. Parce que c'est un peuple qui est dans le cœur de Dieu. Et il fait de même contre l'Église. Et il fait de même contre chacun des chrétiens. Derrière toutes ces armées qui déferlent sur Israël, c'est un combat spirituel qui est engagé. Et nous savons que Dieu va lever un homme, Gédéon, pour renverser l'ennemi. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez qu'on n'est pas des dingos, c'est écrit. Hein. Nous, on croit à la parole. Et clairement, l'apôtre Paul nous parle de ces dominations. Dans Romains chapitre 1, verset 21 à 24, l'apôtre Paul nous parle aussi de la déchéance de l'homme parce qu'il a abandonné Dieu. Regardez ce qui se passe. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, notre pays est quand même un pays d'histoire chrétienne, de culture chrétienne. Aujourd'hui, il en reste quoi ? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. La dégradation des mœurs, c'est un combat spirituel, mes frères et sœurs. C'est pas les gens qui veulent être libres, avoir leur... Ça va bien plus loin que ça. Ce sont les gens qui ont refusé la gloire de Dieu. Ils ont refusé de se soumettre à Dieu et ils sont livrés à leur propre penchant. Dites-moi, chacun de nous là qui connaissons Dieu, si on était livré à nos propres penchants, ça donnerait quoi si on arrête Dieu de nos vies? Ça serait pas terrible. Hein. Ben moi, je parle pour moi. Peut-être vous, vous êtes bien. On continue. Le général de Gaulle dit, mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Amen. Amen. Oh là, je m'attendais à un amen. J'espère qu'il a eu plus de succès que moi, le général de Gaulle, j'espère. La troisième remarque que je veux faire, c'est que les chrétiens sont encouragés à ne pas perdre espoir, à ne pas baisser les bras. Amen.
Amen.
Dans Matthieu 24, on l'a lu tout à l'heure, 12, il est dit « L'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais il est ajouté « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Devant cette puissance terrible qui attaque notre monde, qui envahit nos pensées, nos univers, Dieu a envoyé son fils Jésus. L'apôtre Paul nous dit qu'il s'est assis sur ses dominations spirituelles. Il les a livrées en spectacle. Et oui, et d'ailleurs à un moment donné, il parle d'une force supérieure. Oui, il y a dans le monde spirituel une force qui est supérieure à l'autre. L'armée de Dieu est supérieure à l'armée de Satan. Amen. L'espérance ne meurt pas. L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, vous le savez. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, l'apôtre Pierre dit « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce n'est pas parce que l'ennemi a pris du terrain que Dieu il a abandonné la partie. Dieu veut encore amener des hommes, des femmes à la repentance.
Amen.
Que ce soit dans son peuple, parce que nous aussi qui sommes au Seigneur, on a besoin de se repentir. Mais surtout pour ceux qui sont loin de Dieu, qui hallucinent en entendant ma prédication de ce matin. C'est quoi ? De quoi il nous parle ? Et je comprends qu'on puisse halluciner en entendant ça. Mais le Seigneur, il use de patience. Il a un plan pour chacun. Et il veut que chacun puisse arriver à la repentance. Vous savez pourquoi il veut qu'on arrive à la repentance ? Pas pour nous humilier. Allez, repens-toi, t'es un mauvais, vas-y. Non, pour pouvoir nous sauver. pour pouvoir nous sauver. Amen. Jésus nous dit, c'est l'apôtre Jean qui nous le rappelle, que Jésus a été envoyé non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Est-ce qu'on a gardé espoir, mes frères et sœurs? Est-ce que vous gardez espoir pour la France?
Amen.
Vous vous dites, voilà, c'est mort. Oh. Si on commence à regarder les infos, les dernières lois qui ont été votées, etc., on dit, pouh, les gars. Gardons espoir. Dieu est puissant, mes frères et sœurs. Dieu est puissant. Le problème est spirituel. Le problème n'est pas politique. Le problème n'est pas économique. Il est spirituel. Nous le savons. Et nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen.
Amen.
On continue. Croyez-moi, moi qui vous parle, en connaissance de cause, il vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire un jour venir la victoire. Il continue en disant, la France n'est pas seule. Il commence à parler de moyens qui sont là tout autour. C'est vrai qu'à l'époque, en 1940, quand vous regardiez la France seule, vous pouviez dire, c'est fichu, quoi. C'est fichu. Mais Général de Gaulle, il a une vision plus large. Il a dit, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Amen. Cette guerre, elle n'est pas limitée à la France. Il le dit. La guerre spirituelle, ce n'est pas que la France qui l'a collée. C'est le monde entier. Parce qu'il a dit, on l'a dit tout à l'heure, le diable, c'est le dieu de ce monde aujourd'hui. Mais nous avons, et c'est ce que nous devons savoir, c'est la quatrième remarque, nous avons une armée spirituelle puissante à nos côtés. Amen. Vous ne la voyez pas avec vos yeux, mais elle est là. Et peut-être que vous pourrez la voir si vous dites, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Il y a quelqu'un qui ne la voyait pas et qui l'a vu, vous savez qui c'est, hein?
Oui.
Serviteur d'Élysée, on lit le texte dans 2 Rois 6, 15, 17. En fait, pour vous situer le contexte, vous qui ne connaissez pas la Bible, les Syriens étaient en train d'attaquer Israël, mais ils avaient un peu les boules. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une attaque, eh bien, l'attaque était déjouée parce que Israël était averti de ce que les Syriens allaient faire. Donc ils ont fait une réunion, ils ont dit, il y a une taupe là parmi nous. Normal. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, non, il n'y a pas de taupe. Israël, ils ont un prophète qui s'appelle Élisée. Et c'est lui, Dieu lui montre nos plans et il les révèle à l'armée d'Israël. Ah, quoi? Ok, on va aller, il habite où ce gars? Allez, on va dans sa ville et on va aller le ratiposer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils se sont présentés devant la ville. Et Élisée, il est devant cette armée qui se présente dans la ville avec son serviteur. Le serviteur, il dit, on arrive. Serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Il y avait des chars. Allez, maintenant. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, zut, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai perdu le temps. Vas-y, on va le lire. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, à mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, Élisée, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Waouh. Incroyable, non? Super. Eh oui, il y a un monde qui est là et qu'on ne voit pas, mais à des moments, le Seigneur peut le révéler pour que ça puisse devenir concret. Alors, ce serviteur d'Élisée, il en avait beaucoup. Je pense qu'Élisée, lui, ne le voyait pas, mais il y croyait sans. Pas besoin de voir pour croire. On continue. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs, les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Vous voyez, j'ai du succès. Hein. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ouais, j'ai failli dire amen. Cinquième remarque. Nous sommes appelés à résister, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes des résistants?
Amen.
Ouais, il y en a 5 ou 6 parmi nous. Nous sommes des résistants. Il y a deux moyens par lesquels nous résistons. Le premier moyen, c'est la sanctification. Romains chapitre 12, verset 2, dit ceci, c'est le conseil de l'apôtre Paul, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Vous entendez ça ? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est facile, ça ? Difficile. Ne pas faire comme les autres. Ne pas faire ce qui est à la mode. Ne pas avoir le discours bien séant que tout le monde applaudit. Hein ? Difficile. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le même chapitre, au verset 21, il est dit ceci, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En cherchant le bien, en cherchant la sanctification, nous résistons. Sans, il n'y a pas à prendre les armes. On interpelle notre entourage si on se sanctifie, je vous assure, hein, aujourd'hui. Oh, c'est vrai ou pas ? Oui. J'espère qu'un jour, on vous a fait remarquer que vous n'êtes pas comme les autres. Sinon, si on ne vous l'a jamais dit, posez-vous des questions. Sur votre lieu de travail, si vous participez aux râleries collectives sur le patron, vous n'allez pas faire la différence, vous n'êtes pas des résistants. Ouais. Si vous faites partie de ceux qui médisent sur les autres, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'est pas trop des résistants. Et c'est pas facile, hein, ça, de résister. Quand il y a des mauvaises blagues, obscènes, vous êtes écroulés de rire avec vos collègues ou ils doivent sentir que ça vous fait pas rire ? Ah oui, vous allez être traité de nunuche, de tout ce que vous voulez. C'est pas grave, vous résistez. Et croyez-moi, les gens, s'ils se moquent quand ils sont en groupe, quand ils rentrent chez eux, ils sont interpellés, ils disent « Oh là, quelqu'un qui est courageux là, quelqu'un qui est pas pareil. » Je vous invite à lire chapitre 12 et suivant de l'Épître aux Romains. C'est les chapitres de la résistance. C'est les chapitres qui nous encouragent à marcher à contre-courant de notre siècle. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'Esprit. » Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment résister ? L'apôtre Paul nous l'a dit dès le premier verset qu'on a lu. Soyez renouvelés dans votre intelligence. On est renouvelés par quoi ? Par le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit ne prend pas place en nous, on ne peut pas résister. La vague est trop forte. L'ennemi est trop fort. On ne peut pas résister. Et ne crois pas que par ta volonté, parce que tu es quelqu'un de bien à la base, tu vas pouvoir résister à la vague. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux résister que si tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et puis le deuxième moyen de résister, c'est l'annonce de l'Évangile. Amen.
Amen.
Oh là, je vais entendre des amen. L'annonce de l'Évangile.
Amen.
Alléluia. Le pasteur qui a prêché, Francis Nauvert, hier à Lisjourdain, il a parlé de la femme à la perte de sang. Il a dit, elle avait entendu parler de Jésus. Il nous a dit, vous parlez de Jésus, vous ? Parce que si cette femme, elle n'avait pas entendu parler de Jésus, comment elle serait venue auprès de lui ? Et oui, ça part toujours de là, de quelqu'un qui a parlé de Jésus. Et il rendait son propre témoignage, et on pourrait dire, ici, tous ceux qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne, ils ont à un moment donné entendu parler de Jésus. Oui ou non ? Sinon, comment ils seraient venus à Jésus ? Et même ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, ils ont entendu parler de Jésus par leurs parents. Ok ? L'annonce de l'Évangile. La dernière phrase de l'appel du 18 juin, c'est « Demain comme aujourd'hui, je parlerai. » Je parlerai. Il va utiliser la radio pour parler et encourager les troupes. Après, ils se sont amusés, hein, faire des trucs codés, tout ça. Mais en fait, ça a marché, leur truc. Hein. Vous avez tous vu des films sur la résistance, hein, où les gars sont collés à la radio, puis on entend Germaine a dit bonjour à André, je sais pas quoi, un truc qui veut rien dire, mais en fait, c'est, eux, ils savent ce que ça veut dire. Et c'est le déclenchement d'une opération ou de je ne sais quoi. Et en fait, si le général de Gaulle se met pas par les caisses, qu'est-ce qui serait passé? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre. En tous les cas, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, ça peut changer complètement sa vie. Il peut passer de la domination de l'ennemi à la liberté en Christ.
Amen.
Si tu parles à quelqu'un, tu peux voir sa vie changer. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Juste d'avoir dit, tu sais, je connais quelqu'un, Jésus. Il peut t'aider. Juste dire ça, c'est tout. Ça peut avoir un effet dans le futur extraordinaire, même plus qu'extraordinaire, parce que ça se passe même jusque dans l'éternité. Cette personne, au lieu d'aller en enfer, elle ira avec Dieu. Tu ne te rends pas compte les effets que ça a de parler de Jésus. Ça te dépasse complètement, mais fais-le, mon frère, ma soeur. Arrête de te cacher. Parle de Jésus. Amène les gens à Jésus. Ne les amène pas à toi, ton témoignage. Moi, j'ai fait ceci, moi, cela. Non, non, amène-les à Jésus. Et fais confiance à Jésus pour s'occuper d'eux. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Nous avons un devoir de courage. Ce n'est pas facile de dire à des gens qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Etc. Je peux allonger la liste. Ce n'est pas facile de prendre position. Mais faisons-le sans jugement, sans culpabilisation, mais disons simplement que nous, on va pas sauter sur quelqu'un qui vit en concubinage pour lui dire « t'es pas bien, toi ». Non, mais si à un moment donné ça vient dans la discussion, est-ce qu'on prend position ou est-ce qu'on dit « oh, je vais rien dire parce que sinon il va se braquer ». Non, nous sommes appelés à avertir. Dans le désordre, ça veut dire ceux qui ne vivent pas conformément à ce que Dieu a enseigné. Il est le Créateur, c'est lui qui décide ce qui est bon pour nous et pas bon. C'est pas nous, au travers des siècles, qui évoluons parce que... Non, non. Ce qu'il a dit à l'origine, lorsqu'il crée le monde, c'est toujours valable aujourd'hui. Et puis Jésus nous dit ceci, Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va le faire cet après-midi. Alléluia.
Amen.
Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. On n'est pas seul. Le général, il a dit, on n'est pas seul. Mais Dieu nous dit, on n'est pas seul. Et l'armée qui est avec nous, vous pouvez amener les États-Unis, vous pouvez amener tout ce que vous voulez. L'armée qui est avec nous, elle est supérieure. Amen. Elle est largement supérieure. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est l'année de la moisson, vous vous rappelez? Année de la moisson. On se lève, mes frères et sœurs. On amène des âmes au Seigneur. 4 baptêmes. 4 baptêmes en 6 mois, vous êtes contents? Non, moi je ne suis pas content. 4 baptêmes, c'est peu. C'est vraiment peu. Winnie, Josiane, Valérie, on se réjouit. Hein. On se réjouit que vous faites baptiser, mais on veut plus. Hein. On veut beaucoup plus que ça. On veut 5, 15, 20, 30 baptêmes. Oui, ouais, vous dites là, il est fou. Ouais. Vous avez perdu espoir ou quoi?
Non.
Hein, j'ai l'impression quand même un peu. Hein. Est-ce qu'on a espoir que d'ici la fin de l'année, on peut voir de grands nombres de baptêmes? Moi, je ne veux pas le faire pour la publicité de l'Église, mais vraiment, on veut que les gens se tournent vers Dieu.
Amen.
Amen. Et on veut que ce soit pareil dans les autres églises. Hein. C'est pas, ah, Colombier, nous, on a eu un réveil. Non, non. Moi, je prie que ça se passe partout, dans toutes les églises qui se prêchent le nom de Jésus. Les églises sont reconnues par Dieu, que des gens puissent se baptiser en grand nombre. Amen.
Amen.
Amen. Conclusion. Conclusion. Trois solutions. Trois solutions. C'est très simple, mais vous réfléchissez, je vous laisse réfléchir. trois possibilités devant l'invasion de l'ennemi, devant le règne du Dieu de ce monde, le diable. Première solution, la collaboration. C'est ça qui a été choisi au départ par les autorités françaises. La collaboration. C'est une première possibilité. Tu peux collaborer avec le diable. De toute façon, si tu n'es pas avec Dieu, la deuxième position, regardez, moi je suis neutre. Ça marche ça?
Non.
Vous croyez que les Français qui disaient moi je suis neutre, ben non, si t'es neutre, t'es collabo. Si t'es neutre, t'es collabo. La troisième solution, résister. Amen. Être résistant. Alléluia. On veut pas arriver en faisant les fiers en disant ouais moi je suis un résistant et ça. Non Seigneur, tu vas m'aider parce que c'est difficile. C'était pas facile de renverser l'armée allemande. C'était pas facile. Et entre, vous savez quand est-ce qu'elle a fini la guerre? Quelle année? Là, le brevet. 45, bien. Donc ça fait combien entre 40 et 45? Entre l'appel du général de Gaulle et la victoire finale, c'est 5 ans. Un peu moins. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas un combat gagné d'avance. Ou plutôt si c'est un combat gagné d'avance, pardon si des bêtises, il est gagné d'avance puisque nous sommes dans l'armée du plus fort.
Amen.
Mais c'est pas juste en mettant une petite fleur sur son fusil que ça va se passer. Hein. Parce qu'on dit, oh mais il n'y a pas besoin, c'est Dieu qui fait tout. Non, c'est une collaboration entre Dieu et nous. Et si tu veux être collaborateur, sois-le de Dieu. Et là, tu vas devenir un résistant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va baisser nos têtes, prier quelques instants. J'aimerais qu'on se laisse interpeller dans nos cœurs. Je m'adresse à vous qui êtes déjà au Seigneur, qui avez donné votre vie au Seigneur, qui êtes baptisé. Vous allez voir ce baptême cet après-midi. Certains vont dire, oh, moi c'était il y a... Je ne donne pas le nom de l'année. Mais est-ce que pour autant ça fait de toi un résistant? Est-ce que tu marches dans ce chemin de la sanctification? Est-ce que tu marches en demandant au Seigneur de te remplir de l'Esprit afin que tu ne sois pas submergé par la vague? Ne te crois pas meilleur que les autres. Quand on regarde les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, des fois on les regarde de haut, mais franchement, si tu regardes bien ta vie, à la base tu es comme eux. T'es même peut-être pire. Marches-tu dans le chemin de la sanctification? Ce chemin étroit. Et oui, le chemin large, il y a beaucoup de monde. C'est tellement plus facile. C'est plus facile de dire oui à tout. C'est plus facile de dire aucun interdit, allez, on y va, on fait ce qu'on veut. C'est facile. Certains disent que la religion, c'est pour les lâches. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour suivre Dieu, il faut être courageux. Tu as une aide incroyable, extraordinaire, au travers du Saint-Esprit. J'aimerais t'encourager à ne pas passer une journée sans dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ». Alors que je me lève ce matin, je veux passer un temps en ta présence, afin que tu m'inondes de ton esprit. Amen. Afin que je puisse aller là où je vais et que je puisse avoir un bon témoignage, être un résistant. Amen. Je vais m'adresser à ceux qui peut-être viennent pour la première fois ou une des premières fois, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, qui se retrouvent accusés de collaborateurs. Waouh, c'est grave là, pasteur, ce que vous me dites. Mais tu l'as fait sans savoir. Tu n'étais pas conscient de ce combat spirituel. Et en prenant pas position pour Dieu, ben, forcément, tu sers l'autre, le diable, qui tire ta vie comme si tu étais une marionnette. Il te pousse vers le mal, alors que Dieu te dit, fais attention, alors que Dieu te dit, suis-moi, alors que Dieu t'appelle, toi, tu continues à vouloir rester libre dans ton chemin, et tu es en train de t'enfoncer. Tu mesures pas les conséquences de tes actes aujourd'hui, mais un jour, tu les mesureras, et ce sera tellement douloureux. Le Seigneur, lui, veut t'épargner cela.
Oh, ne lui résiste pas, ne sois pas un résistant devant Dieu. Viens collaborer avec Dieu. C'est l'invitation du Seigneur pour toi ce matin. Je m'adresse peut-être aux ados, aux jeunes qui n'ont pas encore fait ce pas. Et attention, tu te fais piéger plusieurs fois, tu deviens collaborateur du prince de ce monde. Parce que tu acceptes certaines choses, tu acceptes de te laisser entraîner. Mais le Seigneur, il veut faire de toi un vainqueur. Il veut t'aider pour toi aussi, adolescent, le Saint-Esprit peut être une aide. Tu peux lui demander son secours afin de pouvoir résister. C'est tellement difficile pour toi. Mais pas impossible. Parce que Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que les chrétiens, à nouveau, je termine par cela, est-ce que vous êtes les évangélistes dans l'âme? Pas des évangéliques, les évangélistes. Est-ce que vous avez à cœur de parler de Jésus? Est-ce que vous avez à cœur que des âmes se convertissent? Est-ce que vous dites juste amen quand on en parle, ou est-ce que ça vous perturbe, ça vous hante tous les jours de votre semaine, à chaque minute? Seigneur, je veux que tu me conduises vers quelqu'un qui ne te connaît pas pour l'attirer à toi. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Et nous sommes souvent tellement préoccupés par nos vies personnelles, par nos problèmes, par nos difficultés, qu'on ne s'occupe pas de ceux qui se perdent autour de nous. Que le Seigneur vraiment réveille cette flamme, qui ranime cette flamme de l'évangélisation. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, merci pour ces temps. Je rends gloire et grâce à ton nom. Tu as toi-même, par ton esprit, interpellé les cœurs différemment. Chacun a pu prendre telle ou telle phrase, telle ou telle partie. Seigneur, ça c'est toi qui fais ces choses. Et je remets tout ça entre tes mains. Ma prière, c'est que les semences qui ont été déposées puissent être bien soignées par les cœurs qui l'ont reçu. Que nous ne partions pas comme des auditeurs oublieux, mais que nous prenions notre arrosoir pour verser de l'eau sur cette semence, afin qu'elle prenne forme dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Merci Seigneur pour ta parole encore ce matin. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ces temps bénis que tu nous as donné de vivre. Qu'à toi revienne toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.